Bonsoir, bienvenue dans cette émission. Les combattants de la FC-M23 soutenus par le Rwanda se sont retirés de plusieurs villages du territoire de Lubero au Nord Kivu qu'ils occupaient depuis plus d'un an. C'était dans la nuit de lundi à mardi 24 mars. Ces troupes sont regroupées actuellement dans les agglomérations d'Alibongo, Kirumba et Kanyabayonga, ont rapporté des sources concordantes le jeudi 26 mars. Dans la zone des Kamandilak, des mouvements logistiques ont également été signalés, notamment l'évacuation des matériels militaires par voie lacustre vers Bichumbi, dans les territoires voisins des Rutshuru. Pendant ce temps, les FRDC ont annoncé ce dimanche 29 mars le début des opérations militaires pour contraindre les éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR au cantonnement. Selon le général Jacques Chaligonza, chef d'état-major adjoint chargé des opérations, un site de transit est déjà opérationnel à Kisangani pour organiser leur retour vers le Rwanda. Quelle analyse faire du retrait des rebelles de l'AFC M23 un an après leur occupation du territoire des Lubero et de l'annonce par les FRDC des opérations contre les FDLR? C'est l'objet du débat de ce soir et nous recevons ici dans ces studios Juvenal Munubo Mubi. Il est avocat, il est cadre de l'Union Sacrée de la Nation, il est député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Bonsoir honorable Juvenal Munubo Mubi.
Bonsoir Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
En ligne, Henri Pacifique Mayala, il est coordonnateur du baromètre sécuritaire de Kivu. Bonsoir Henri Pacifique Mayala. Henri Pacifique Mayala, est-ce que vous êtes là? Et lui également, il va nous rejoindre, c'est Patient Bachombe Matabisi, il est membre de la société civile, il est coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'Inacode RDC. Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit, les troupes de l'AFC M23 et de l'armée rwandaise se retirent de plusieurs villages du territoire de Lubero au Nord Kivu qu'elles occupaient depuis plus d'un an. Même mouvement observé dans certaines zones du territoire de Walikale dans la même province. Les détails dans ces papiers de Martial Papi Mukeba rendus par Jude Mister Bilanda.
Jusqu'à ce vendredi matin, une dizaine de villages de Lubero ont été abandonnés sans combat depuis lundi, avec retrait des matériels militaires, y compris armes lourdes et d'appui. Les responsables de l'administration parallèle installée par l'AFC M23 ont également quitté la zone. Dans ces vides, les groupes armés dits Wazalendo ont réoccupé des villages comme Vukununu, Ilambula, Ivatama, Luseke, Lunyasenge et Kipese. Aucune exaction n'a été signalée, mais les populations reste inquiète à l'absence de l'État. Les sources sécuritaires précisent qu'aucune consigne n'a été donnée pour un redéploiement des FRDC et de la police. Parallèlement, des retraits ont été observés dans certaines positions avancées de l'AFC M23 de Walikale, notamment à Mijenge, Mpeti et Katekou près de Lubero. Les troupes regrouperaient hommes et matériel avant de se diriger vers Rutshuru. À ce jour, ni l'AFC M23 ni les gouvernements congolais ou rwandais ne se sont officiellement prononcé sur ces mouvements.
Merci à vous, Jude Mister Bilanda. Les FRDC ont lancé dimanche 29 mars 2026 une opération des traques des rebelles rwandais des FDLR encore présents sur le territoire congolais. Les coups d'envoi a été donné à Kisangani, dans la province de la Tchopo, par le général Jacques Chalingonza, chef d'état-major adjoint chargé des opérations et du renseignement. Objectif, obtenir leur reddition avec dépôt des armes et rapatriement vers le Rwanda dans le cadre de l'accord de Washington avec des garanties de sécurité et un suivi international. Mais sur le terrain, cette opération s'annonce déjà complexe avec plusieurs défis à relever. Les explications avec Martial Papi Mukeba.
L'opération prévoit que la ville de Kisangani serve principalement des sites de cantonnement pour les combattants FDLR rendus ou capturés avant les rapatriements. C'est également là que trois bataillons des FRDC ont été formés pour cette mission, dont un spécialisé en combat de jungle et équipé dans le cadre de la coopération militaire avec la France. Ils doivent être déployés au Nord Kivu, mais les défis sont importants. Selon des sources militaires, les principaux foyers présumés des FDLR, notamment à Rutshuru, ainsi que dans certaines parties des Nyiragongo et des Masisi, restent sous occupation de l'AFC M23. L'accès à ces zones constitue donc un obstacle majeur et le retrait préalable de l'AFC M23 et des troupes rwandaises est jugé nécessaire pour permettre le déploiement des FRDC, précise ses sources. Autre défi, l'appui en renseignement et en logistique. Des sources sécuritaires évoquent un soutien attendu de la communauté internationale, notamment de l'ONU, y compris pour le rapatriement des combattants FDLR. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papimukeba. Juvenal Munubo Mubi, vous êtes avocat et cadre de l'Union Sacrée de la Nation, vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est de la RDC. Comment vous expliquez ces deux faits qui interviennent presque au même moment, les retraits des combattants de l'AFC M23 de certaines localités du Grand Nord au, du Nord Kivu, ainsi que l'annonce par les FRDC des opérations militaires contre les FDLR?
Merci beaucoup Guy pour l'invitation et Bachombe également, bonsoir. Au fait, il faut comprendre... D'abord, il faut indiquer la situation telle que ça se trouve sur terrain, donc pour compléter les informations en votre possession. Et évidemment, si les retraits se confirment dans les Lubero, ces retraits ne semblent pas se confirmer ailleurs, comme dans les Walikale. Hein. Je peux, par exemple, vous dire que sur l'axe Walikale-Masisi, par exemple, ils sont encore là. Ils sont à Kibati, ils sont à Kachebere.
Il n'y a pas de mouvement à faire.
Il n'y a pas eu de mouvement de ce côté-là. Mais par contre, sur l'axe Mueso, il y a eu quand même des mouvements. Ce qui fait qu'ils ne sont plus en petit, tout comme à Minjenje, ils se sont retirés de là. Et donc, il faut toujours voir au cas par cas, quoi, suivant les lieux. Alors, pourquoi cette coïncidence? Parce qu'on parle des retraits des M23, on parle qui reste à confirmer dans tous ces endroits. Et puis, on parle également des.
Il y a des retraits de troupes rwandaises.
Là, on a parlé de M23.
Mais aussi des troupes rwandaises.
Oui, mais tout ça, ce n'est pas encore confirmé. Le problème, c'est quoi? On n'a pas les mécanismes. Il y a une structure qui s'appelle mécanisme conjoint de vérification élargie, mais qui ne semble pas bien faire son travail. Et le respect du cessez-le-feu, et les mouvements des troupes dans le sens du retrait ou du désengagement, ça devait être confirmé par une structure indépendante, quoi.
Mais c'est des faits qui sont constatés, qui sont observés par les gens qui sont sur le terrain, notamment le gouverneur du Nord Kivu, qui a confirmé qu'effectivement, il y a ces mouvements de départ.
Alors, ça, c'est des sources officielles. Hein, et là, c'est dans la zone de Lubero. Mais ce n'est pas évident que c'est confirmé partout ailleurs. Moi, je suis aussi en contact.
Oui, mais comment vous confirmez que cela puisse intervenir presque au même moment?
C'est dans la suite de la déclaration de Washington. Il y a une déclaration du 18 mars 2026, parce que les partis se sont rencontrés, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, les délégués de la RDC et du Rwanda, pour évaluer la mise en œuvre des accords de Washington. Et puis, il y a eu au moins trois points dans cette déclaration. C'était une courte déclaration, un communiqué final, si on peut le dire comme ça. Il y a d'abord la désescalade, c'est-à-dire il faut désamorcer la crise, baisser les tensions. Et puis, le désengagement et lever des mesures de défense du Rwanda. Et puis, il y a la lutte contre les FDLR. Raison pour laquelle, s'agissant du désengagement, il y a ces mouvements qu'on observe. Et par rapport à la lutte contre les FDLR, il y a cet engagement pris par le gouvernement congolais de lutter contre les FDLR.
Peut-on affirmer que c'est le début effectif de l'application de l'accord de Washington?
Il faut quand même admettre qu'il y a une pression internationale. C'est une pression de Washington, hein, des États-Unis, notamment sur le Rwanda et la M23. Et c'est dans ce sens-là. Mais l'objectif de la pression, ce n'est pas de la pression pour qu'il se retire et que tout s'arrête par là, quoi. Moi, je vois beaucoup plus une pression pour permettre de revenir sur la table des négociations et de conclure, hein, faire la paix, hein, en définitive. Parce que c'est différemment interprété. Il y a ceux qui pensent que, voilà, les Américains exercent la pression pour que le Rwandais se retire, pour que l'AM 23, hein, qui mettent fin à leur lutte. Et à la fin, ils ne pensent pas qu'on peut conclure par un accord de paix. Moi, je crois que tout ça, c'est un prélude, effectivement, d'un atterrissage en douceur du processus de paix. Et cet atterrissage en douceur, c'est lorsqu'on arrivera à conclure un accord de paix qui prévoit tout pour traiter la question dans toutes les racines.
L'accord de paix entre le gouvernement congolais et la FCM 23.
Oui, ce sont là les protagonistes qui sont sur terrain. Et là, je parle par exemple de Doha. Doha qui n'a pas été conclu. Et de plus en plus, on pense d'une délocalisation, c'est pour parler vers la Suisse. J'ai appris cela. Et donc, il fallait une pression pour en arriver là. Pourquoi ? Parce que les cessez-le-feu n'étaient toujours pas respectés jusque-là. Et là, il faut admettre que les Américains exercent suffisamment de pression. Mais la seule pression américaine ne suffit pas. Ce qui compte, c'est l'engagement des partis à faire la paix. Parce que ce ne sont pas des Américains qui viendront faire la paix pour nous. Ça, je l'ai dit souvent et je le répète ici. Il faut qu'il y ait l'engagement des deux côtés. Hein, côté du gouvernement, la RDC, et côté de ceux qui sont à l'Est.
Vous pensez que les deux partis sont engagés effectivement à faire la paix quand on constate qu'il a fallu, n'est-ce pas, cette pression pour que les Rwandais puissent entamer les mouvements de retrait de cette troupe pour de certaines localités?
Et vous avez raison, d'elles-mêmes c'est difficile. L'expérience nous montre que les partis d'elles-mêmes n'arrivent pas à faire la paix, que ce soit du côté du gouvernement congolais, M23, le Rwanda. Alors s'il n'y a pas cette pression internationale, c'est difficile qu'il y ait des pas. Alors on voit que les lignes bougent justement parce qu'il y a cette pression américaine. Elle est forte. Il faut voir ce qu'a été la déclaration de M. Boulos lors de cette réunion de Washington, la façon dont il s'est exprimé. Hein, par rapport au Rwanda, c'est véritablement une pression. Donc il y a une pression diplomatique qui fait actuellement qu'on observe ces mouvements des désengagements ou des retraits. Et puis c'est cette pression aussi qui fait maintenant qu'il y a cette annonce de la lutte contre les FDLR.
Voilà, donc cette pression qui est à la base, n'est-ce pas, de ces retraits des troupes rwandaises de certaines localités dans le Grand Nord, on parle de ça, mais nulle part on évoque... les troupes qui auraient traversé la frontière pour entrer au Rwanda. Comment vous expliquez cela?
C'est pour cela, moi, je pense qu'il faut plus parler de désengagement. Il y a quand même un début de désengagement, mais le retrait des troupes rwandaises que nous attendons n'est pas encore arrivé là. Moi, je me rappelle quand il y a eu retrait des troupes rwandaises vers la fin de la deuxième guerre du Congo, la 2013. Guerre d'IRCD.
2013.
Oui, autour de 2001 exactement, parce qu'à part les processus des Sun City, il y a eu cet accord de Pretoria qui devrait prévoir le retrait des troupes rwandaises et cet accord de Luanda qui devait prévoir le retrait des troupes ougandaises. Moi, j'étais à Goma et ils s'étaient réunis massivement au stade de l'unité de Goma. On n'a pas assisté à un événement comme celui-là. Donc c'est encore trop tôt, c'est pourquoi moi je dis qu'il faut être très réservé. Il y a eu quelques mouvements de troupes, beaucoup plus dans le sud de l'Oubero. On a vu vraiment que ces troupes étaient en train de se retirer. Et quelques mouvements aussi sur l'axe Mueso, Pinga, vers Mpeti et Minjenje. Mais il y a des lignes sur lesquelles ça ne bouge pas, comme sur l'axe Masisi. Je vous parlais tantôt des Kibati, des Kachebere, on les aperçoit toujours là-bas. À Ikobo, ils s'étaient retirés des Kanounes, mais ils sont revenus dans ces localités. Et donc, mais quand même, il faut admettre qu'il y a cette pression assez forte des Américains. C'est une bonne chose, parce que même quand on parle des accords économiques, comment ces accords seront-ils appliqués lorsqu'il y a toujours des troupes étrangères à l'Est? Il faut quand même avouer qu'il y a cette pression-là, mais une pression pour aller à la table des négociations et conclure la paix. Ce n'est pas une pression, raison pour laquelle le triomphalisme n'est pas de mise, quoi, à ce stade ici. C'est une pression que nous encourageons. Et si ça peut permettre alors la conclusion d'un accord de paix pour que l'autorité de l'État soit rétablie ou se rétablisse le plus rapidement possible, c'est le souhait de tout le monde, parce que les populations ne font que souffrir. Vivre dans un environnement où les systèmes bancaires ne fonctionnent pas, dans un environnement où même quelques mouvements de circulation sont réduits, eh bien, ça vaut la peine quand même à ce que Goma, Bukavu, retombe dans l'administration du gouvernement. Surtout que dans ces rencontres, même dernièrement à Washington, le 18 mars, on a insisté sur la souveraineté. Il faut appuyer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo.
Merci.
C'est plutôt une très bonne chose, quoi. Mais il faut rester encore vigilant et voir vraiment que tout ceci se traduise en actes, et notamment les retraits effectifs des troupes rwandaises.
En fait, le début d'un processus.
Voilà, c'est le début de quelque chose.
Merci.
Ça donne des raisons d'espérer, mais il faut considérer que la paix doit être l'œuvre des Congolais, des Rwandais qui nous ont agressés, et de ceux qui sont à Goma qui ont accepté d'être utilisés par le Rwanda.
Merci.
Il faut que les acteurs sur terrain s'engagent à faire la paix. Donc ce ne sont pas les Américains qui vont nous imposer la paix.
Merci. Patient Bashombe, Matabisi, bonsoir.
Bonsoir, cher
Salut au début de l'émission.
J'en profite aussi pour saluer l'honorable Munobo.
Voilà, vous êtes membre de la société civile, vous êtes coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'Inacode RDC.
D'Inacode RDC.
Ah, pas d'Inacode, D'Inacode RDC. Ouais. Ok, merci beaucoup. Alors, pour vous, c'est quoi votre compréhension, n'est-ce pas, du retrait de l'ASM 23 ainsi que des troupes rwandaises de certaines localités du Nord Kivu et aussi cette annonce par les FRDC de la traque contre les FDLR?
Alors, Guy, laissez-moi faire une petite rétrospective pour mieux cerner la situation qui sévit sur terrain. D'abord, l'honorable Munobo l'a dit, c'est sur la pression que le Rwanda a accepté finalement qu'il était en République démocratique du Congo. Mais dès le début, vous allez vous rappeler qu'il y avait des mécanismes au niveau africain, des dynamiques qui voulaient rapprocher le Rwanda et la RDC et à Luanda. Mais là, le Rwanda avait, je dirais, négligé, saboté, et il a brillé par son absence le 15 décembre 2024. Et donc, il s'est préparé déjà à attaquer la ville de Goma. Il ne voulait pas prendre les risques de signer. Maintenant, depuis ces temps, il a pris, que ce soit la ville de Goma et toutes les autres entités au nord et au sud Kivu, et il a toujours nié qu'il n'est pas dedans. Le Rwanda n'était pas dedans. Le Rwanda n'était pas en RDC. C'était un problème congolo-congolais.
Et on a évolué jusqu'à
ce que l'accord a été signé. Quand bien même l'accord était signé, le Rwanda disait toujours qu'il n'était pas en RDC. Et donc, allez-y comprendre qu'il fallait une pression, je crois, au Sénat, pour que la ministre rwandaise puisse admettre officiellement que le Rwanda était en RDC. Et même Corneille Nangaa qui disait qu'il collaborait avec le Rwanda et même l'Ouganda. Donc, allez-y comprendre que, pour qu'aujourd'hui on nous parle d'un retrait, alors qu'on a nié qu'on était sur le territoire congolais, ça appelle quand même à une grande vigilance, une grande attention. Je dois noter que nous n'attendons pas du Rwanda un mouvement ou des mouvements des troupes. On ne demande pas au Rwanda les redéploiements sur d'autres sites. Non, ce qu'on attend, et c'est ça l'accord, le Rwanda doit se retirer de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui? On ne peut pas l'admettre. Et c'est la raison pour laquelle nous, aujourd'hui, le 30 mars 2026, nous venons de signer avec la plateforme un comité de crise pour la paix et la sécurité qui regroupe plus de 235 organisations de la société civile. Nous venons, n'est-ce pas, de rendre public une alerte sur ce prétendu retrait des RDF, donc les militaires rwandais, du sol congolais. Parce que la manière dont ça se fait, ça inquiète plus d'un. Des gens qui ont nié leur présence, mais qui commencent à faire des mouvements nocturnes. Aucun mécanisme précis n'a été mis en place. Aucune vérification n'a été mise en place. Et que ce soit la MONUSCO, que ce soit la communauté internationale, même le médiateur, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, à l'heure où nous tenons cette émission, combien de militaires rwandais ont franchi la frontière. Et donc ça doit nous interpeller.
Et surtout que ça semble avoir pris des cours tout le monde.
Mais évidemment, ça doit nous interpeller et nous voulons alerter le médiateur, le gouvernement congolais et même les partenaires internationaux que cette question doit être prise au sérieux. J'aurais voulu quand même que la MONUSCO, qui a le mandat à travers la résolution 2808, qu'il puisse vérifier, faire un monitoring pour se rassurer et rendre public. Ça devrait même être une tripartite entre l'État congolais, la MONUSCO et le médiateur américain pour dire du jour le jour ou par semaine combien de militaires ont franchi. Le risque, c'est lequel? Le risque, c'est que ces militaires rwandais peuvent être dilués dans la population. Le risque est qu'il y aura une confusion, et surtout que il n'y a pas une certaine, comment je vais appeler ça, une certaine simultanéité entre le retrait des militaires rwandais et le cantonnement de rebelles de AFC M23. En principe, aujourd'hui, qui sait faire la différence? Qui fait la différence entre les éléments des M23 et les éléments rwandais? Parce qu'ils ont nié qu'ils n'existaient pas en RDC. Alors, qui va faire foi? Donc, au même moment que le cantonnement des éléments AFC M23 devait se faire, au même moment, le rapatriement, ou voulais-je dire, le retrait des militaires rwandais devait se faire. Et ça, ça doit être bien documenté à partir de la frontière. Et on devait savoir, ils viennent d'où pour aller où? Est-ce qu'il y a une instance aujourd'hui qui peut nous donner assez, nous fournir assez d'informations là-dessus? Il n'existe pas. Donc aujourd'hui, nous dire qu'il y a retrait.
Et pourquoi, à votre avis, ça s'est fait de façon unilatérale?
Ça s'est fait de manière unilatérale.
Même les partenaires, apparemment, n'étaient surpris. Personne n'était au courant.
Mais c'est parce que c'est le même jeu qui a été fait dès le départ, qui n'ont pas accepté qu'ils étaient en RDC. Maintenant, ils veulent jouer à la même malice, à la même ruse, voyez-vous. Donc nous, Congolais, nous devons être vraiment clairvoyants. Nous devons exiger plus, surtout à la médiation américaine, pour dire que non, ces gens ne sont pas en train de rentrer chez eux. Il faut que les mécanismes soient mis en place rapidement pour savoir combien de militaires ont quitté la République. Est-ce qu'ils sont effectivement partis ou ils sont en train de se redéployer ailleurs? Vous avez suivi des entités où ils ont quitté et après 48 heures, ils sont rentrés. Ils quittent une entité, une zone, et ils vont dans une zone, dans une autre zone, toujours en République démocratique du Congo. Peut-on parler d'un retrait? On ne peut pas parler de retrait. Le retrait, c'est lorsque l'armée rwandaise va effectivement quitter les territoires de notre pays. Et ça pouvait se gérer même à travers un agenda clair et précis, en sachant à tel endroit ils vont quitter et le gouvernement congolais vient prendre possession. Et c'est ça le rétablissement, n'est-ce pas, de l'autorité de l'État à ce moment. Et aussi, nos craintes, parce que nous recevons des informations venant de communautés locales qui nous alertent en tant que société civile. Mais ces gens ne sont pas en train de partir. Ils risquent demain de se produire des crimes qui risquent d'être attribués à l'armée congolaise parce qu'ils seront, n'est-ce pas, perpétrés par la même armée rwandaise mais qui a fait semblant de quitter. Mais ils vont se muer dans la population civile et commettre des crimes et les attribuer au FRDC ou au Azalendo. Faisons très attention. Donc la population...
Mais dans le contexte du moment, il est possible que ces troupes puissent effectivement se retirer?
Mais oui, parce qu'ils sont
avec,
sous pression.
Avec toute cette pression.
Je crois que oui. Il est possible que ces troupes puissent partir. Et ils peuvent partir. Et la pression doit se poursuivre. Mais il faut mettre en place un mécanisme et se rassurer qu'ils sont en train de partir. Mais parce que vous avez aussi parlé, je m'excuse, vous avez aussi parlé de la question des FDLR. Oui, mais les FDLR sont en RDC depuis 30 ans. Depuis 30 ans, le Rwanda est entré en RDC. Combien de fois? Il n'a jamais mis fin au FDLR. Mais aujourd'hui, il y a un engagement que le gouvernement a pris. C'était un alibi, c'était un prétexte. Nous savons très très bien que pour le Rwanda, les FDLR c'est qui? Les FDLR c'est tout Hutu se trouvant sur le territoire congolais. Qu'il soit Burundais, qu'il soit Hutu congolais, tout Hutu c'est un FDLR. Même s'il n'a pas commis les crimes au Rwanda des génocides. Le Rwanda, pour le Rwanda, l'FDLR c'est qui? C'est quoi? C'est aussi les minéraux. Parce qu'ils pillent les minéraux congolais. Donc, nous devons faire très attention. Et je pense que le piège que le gouvernement congolais a tendu au Rwanda, c'est d'accepter, finalement, de mettre fin ou de traquer les FDLR. Et aujourd'hui, vous avez suivi, je crois, c'est hier, le 29, où le gouvernement, plutôt l'armée congolaise, a décidé de mettre un centre, n'est-ce pas, au niveau du, de Kisangani.
Cantonnement.
Mais ce n'est pas suffisant pour nous, la société civile. Nous avons toujours, toujours plaidé pour qu'on mette en place un mécanisme, un DDR régional. Parce que nous, nous ne les prenons pas pour les tuer. Non, ces gens-là, ils sont rentrés combien de fois au Rwanda et le Rwanda les a encore rapatriés, les a encore ramenés en RDC. Nous, nous voulons qu'il y ait un DDR régional parce que, vous savez, il n'y a pas que les FDLR, il y a aussi d'autres miliciens qui opèrent sur notre sol, que ce soit somaliens, burundais, tanzaniens, kenyans, ougandais. Tous doivent être pris en charge par ce mécanisme de DDR régional.
Merci.
Et je pense que ça pourra nous faire avancer pour la paix dans notre pays.
Merci. Henri Pacifique Maïla, est-ce que vous êtes là?
Oui, bonsoir, M. Guy.
Bonsoir, Henri Pacifique Maïla. On n'a pas eu l'occasion de se saluer au début de l'émission. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Que vous inspire ces retraits de l'AFC-M23 ainsi que des troupes rwandaises de certaines localités dans les grands nord du Nord Kivu, mais aussi hein, cette annonce des FRDC de traquer les FDLR?
Oui, on a tous suivi le retrait des troupes du M23 de certaines positions et villages occupés depuis une année dans le grand nord de la province du Nord Kivu, ce qui porte à croire que consécutivement aux travaux dans le cadre de l'avancement, comme le disaient les Américains, de l'accord du Washington, pourrait être en train d'agir. Mais d'autre part aussi, il faudrait lire cela froidement, dans le sens où des villages qui ont été occupés pendant plus d'une année et on s'en retire de façon sélective, de la même façon que au lendemain des sanctions, on a vu le M23 se retirer encore de la ville d'Uvira, mais comme le voulaient les médiateurs américains, que cela revienne à la situation de l'avant-signature du 4 décembre, c'est-à-dire au niveau de Kamanyola, c'est pas ce qui a été constaté sur le terrain parce que jusqu'à présent, si je ne m'abuse, le M23 s'est retiré jusqu'au niveau de Sangue, ce qui représente un avantage stratégique dans le sens où à partir de Sangue, tu as un accès facile sur le corridor de haut plateau, c'est-à-dire que tu pouvais facilement connecter avec les alliés du MRDP Tuiwaneo qui sont dans les hauts plateaux de Minembwe et un repli stratégique facile à connecter avec les hauteurs de Kaziba et Tuya Bukavu. Du coup, je pense que c'est naïf d'une certaine façon de célébrer avant de tout comprendre dans le sens où est-ce qu'il s'agit bien des pressions américaines ou pas. Après aussi, je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que le M23, c'est une entité qui, dans une certaine mesure, s'est construit sa propre agence, sa propre capacité de subsister en dehors du soutien et de l'accompagnement du Rwanda.
Vous voulez dire que les troupes du M23 pourraient tenir, pourraient résister, même si l'armée rwandaise quittait la RDC aujourd'hui?
Dans une certaine mesure, lorsqu'on regarde la trajectoire et l'historique récente sur quand est-ce que nous commençons à documenter la présence physique des troupes, parce que lorsqu'on parle aussi des mécanismes de défense du Rwanda, il ne s'agit pas que des troupes présentes sur le sol du Congo. La guerre, c'est aussi l'échange de l'intelligence, les informations, c'est aussi l'appui en termes de technologies. Aujourd'hui, toute la zone orientale du Congo, 80 kilomètres à l'intérieur, je pense que c'est une zone qui nous échappe, dans le sens où elle est brouillée par la technologie rwandaise. Et tout cela joue à la vantage en tout cas du Rwanda. Donc je disais que Bunagana jusque je pense autour de Kibumba, Sake, jusque là on n'avait pas documenté de la présence physique des troupes déployées en soutien direct au M23. C'est à partir de Kichanga je pense avec l'avancement davantage sur des positions proches des grandes villes comme Goma, Lubichaku dans le Calais et Bukavu, où quand même on sait que l'armée rwandaise a intervenu directement. Et aujourd'hui, comme je le disais, le M23 a géré trois frontières qui ne sont pas les moindres, qui constituent des rentrées considérables, des mines et les taxes sur les populations locales. Et tout cela, c'est des rentrées qui renforcent aussi, dans une certaine mesure, l'aguerrissement de leurs combattants. Et aujourd'hui, on n'a pas aussi la réponse de tous ces cas perdus, les FRDC sur Goma, qui constituait dans une certaine mesure une base logistique considérable pour les FRDC. Parce que, autant je pense que les FRDC n'a pas perdu toutes ces villes parce que c'était une armée faible, autant je pense que tout ce temps que le M23 a géré ces zones là-bas, a généré des revenus pour équiper, traiter ces hommes, c'est de cette façon-là que ça s'est passé sur les terrains. Et je pense que ça sera d'une certaine façon l'heure à la vérité. Et donc, dans une certaine mesure, déjà que persiste la question de savoir combien exactement on traversait pour venir, combien exactement devrait quitter, par quel mécanisme on devrait documenter pour savoir, voilà, le dernier rapport des États, de Nations Unies parlait de 6 à 7 000 hommes qui appuyaient les offensives du M23. Est-ce qu'aujourd'hui, on est d'accord sur ce chiffre-là? Combien sont morts? Combien, dans les faits, vont devoir quitter pour que nous en soyons fixés?
Henri-Pacifique Mayala, au-delà de toutes...
les ceux qui sont restés.
Oui, Henri-Pacifique. Au-delà de toutes tous ces questionnements, si ces deux opérations aboutissaient, c'est-à-dire si l'armée rwandaise se retirait effectivement du sol congolais et que les FRDC arrivaient à mettre hors d'état de nuire les FDLR, est-ce que cela peut ouvrir un nouveau chapitre, celui, n'est-ce pas, de l'avènement d'une véritable paix dans la partie est du pays?
Je pense que oui. Et dans mon esprit de chercheur, je pense qu'il faudrait beaucoup plus trouver des réponses avant de planifier, parce que sans données, sans planification, l'échec dans la planification, c'est planifier pour l'échec. Et pour moi, autant pour les RDF présents sur le sol congolais que pour la question relative aux FDLR, à titre de savoir combien est-ce qu'on en a, combien est-ce qu'on devrait cantonner et où. Il y a beaucoup de questionnements pour lesquels je considère qu'on a mis, pour moi, la charrue devant les bœufs. Et aujourd'hui, oui, c'est un signal et à encourager, à juste titre, je voudrais dire, que le Congo se résout à aussi agir dans le cadre de l'esprit de l'accord de Washington, c'est-à-dire prendre ses responsabilités dans la neutralisation des FDLR. Comme vous le savez, Monsieur Guy, je reste toujours dubitatif sur cet engagement, d'autant plus que ce document a été conçu en août 2024, le moment où le Congo avait encore le contrôle sur des zones dans lesquelles on pouvait bien identifier le Konops, oui, dans lesquelles on pouvait identifier les FDLR, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La plupart des affrontements, des incidents d'affrontement que nous documentons au niveau du baromètre sécuritaire du Kivu, spécialement dans le territoire de Rutshuru, ils sont en train d'opposer les combattants du M23 aux FDLR. Comment est-ce que le Congo va parvenir à neutraliser ces FDLR auxquels ils n'ont plus accès?
Merci.
D'autre part, si on devrait obliger quelque part ou quelque chose de la communauté internationale, c'était la révision de toutes ces clauses-là. Il faudrait amener dans une certaine mesure aussi du côté rwandais un certain niveau de flexibilité à aborder dans le sens de ce dialogue qu'ont toujours réclamé ces FDLR.
Merci.
Il faudrait à un certain niveau que les Rwandais aussi de ce côté-là se parlent. Je pense que le mal il est profond dans la région et autant que c'est instable pour le Congo ouvertement aujourd'hui, le Rwanda d'après, ça risque aussi de faire encore très mal à toute la région.
Merci, Henri Patrick.
Et j'en appelle encore aussi à la responsabilité plutôt des pays que des partenaires. Dire qu'on devrait obliger des médiateurs qui sont aussi des partenaires dans cette affaire, au lieu de dire qu'on devrait obliger de ceux qui dirigent au niveau du pays, je trouve que c'est une posture assez dangereuse.
Merci.
Si on envisage la paix sur le long terme.
Voilà, merci honorable Juvenal Mounoubo Moubi. Justement, par rapport à cette question d'FDLR, hein, étant donné que la première phase, c'est long, les FADC, la première phase des opérations va consister à persuader la FDLR de se cantonner en vue d'un éventuel retour au Rwanda. À votre avis, quels pourraient être les défis que devrait relever la FADC pour atteindre justement cet objectif?
Alors, le premier défi, c'est d'abord l'estimation des FDLR. Il y en a combien? Je crois que Bachombe et Mayala sont revenus là-dessus. Les estimations, lorsqu'on a élaboré les CONOPS à Luanda, est-ce que ce sont les mêmes estimations actuellement? Il y a parfois cette confusion entre FDLR et toutes ces milices, surtout, hein, Nyatura, Bachombe l'a dit. Hein, c'est parfois difficile de savoir qui est FDLR et qui ne l'est pas. Et donc, l'estimation, c'est un problème.
L'estimation.
Et puis, la cartographie, la localisation, c'est aussi un autre problème. Mm-hmm. Et comme le disait Maya là tantôt, c'est la M23 qui occupe les zones où sont censés se situer les FDLR. Mm-hmm. Hein, alors, comment va procéder Kinshasa pour les désarmer par force?
Donc, l'accessibilité aux zones où se trouvent ces FDLR.
Exact. Donc, c'est un sacré défi quand même pour Kinshasa. Mais je comprends que Kinshasa l'ait fait pour offrir une preuve de bonne volonté. Parce qu'à Washington, les 18, ils se sont engagés. Quoi. Kinshasa s'est encore une fois engagé à désarmer les FDLR. Et les 18, les Rwanda, même si le communiqué n'a pas été très long, certainement que les Rwanda s'est engagé également à lever ces fameuses mesures de défense. Et donc, c'est pas pour rien qu'il y a ces mouvements de retrait-là. D'ailleurs, si vous lisez une dépêche un papier d'Africa Intelligence, je crois, l'ancienne lettre du continent, il était dit même que les Rwanda auraient pris même un engagement vraiment un peu plus concret cette fois-là, pour les retraits de ces troupes. Et tout ça, c'est le fruit de la pression américaine. C'est la pression américaine. Mais il ne faut pas rester naïf, au fait. Mayala l'a dit. Il ne faut pas penser que la seule pression américaine suffira, quoi, à tout résoudre. Il existe un processus inachevé, quoi. C'est le processus de Doha. Il faut qu'on arrive à conclure ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut se passer de Doha et obtenir la paix, quoi. Il faut être réaliste. Pour moi, je pense que si cette pression peut aider à revenir vite à la table des négociations, négocier les 6 protocoles qui restaient à être négociés et signer la paix. Nous savons comment la paix a été négociée et réalisée, hein, dans l'histoire récente de ces pays. Et ça ne s'est pas passé comme ça.
Vous pensez
à l'époque, il y a eu un chronogramme.
Vous pensez que le processus de Doha arrangerait tout le monde, toutes les parties?
Mais au moins, ça arrangerait ceux qui se font la guerre sur terrain. Hein? Mais je pense qu'il faudrait aller au-delà. C'est en deux étapes, quoi. Il y a la première étape, c'est évidemment Kinshasa et la M23, ceux qui occupent l'Est. Il faut trouver la paix. Il faut finaliser les processus de Doha. Je l'ai dit et je pense que c'est l'une des solutions. Mais en deuxième position, évidemment, il faut une cohésion interne au Congo. D'où l'idée d'un dialogue inclusif qui n'est pas à négliger aussi.
Merci.
Mais penser qu'à partir de la pression américaine, espérer que tout sera fait, tout sera garanti, donc le Rwanda se retirera et du coup on aura la paix, l'autorité de l'État se rétablit automatiquement. C'est un peu naïf de penser comme ça.
Merci.
Mais penser que la pression américaine aiderait à revenir à la table des négociations pour vite conclure les négociations entamées, là, c'est un peu réaliste. Parce que même ces retraits-là, il faut qu'il y ait un chronogramme. Il faut que ça se passe dans la clarté. Hein, on peut nous dire, voilà, il se retire, mais combien se retire? Il se retire d'où exactement? Hein, les cantonnements, ça se fait où?
Voilà.
Alors, pour avoir des garanties à tout ça, ce n'est qu'à travers une feuille de route, quoi. Ce n'est qu'à travers un accord. Ça doit être des annexes à un accord
voilà.
Pour qu'on arrive, qu'on ait de la clarté.
On va donner la parole maintenant aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Patient Bachombe, Matavishi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui est en train d'appeler depuis la ville de Kisangani dans la province de la Tchopo, c'est Jacques Befonga.
Jacques Befonga, Malumalu, depuis Kisangani, province de la Tchopo. Ces retraits des rebelles de l'AFC-M23 dans les territoires de Lubero peut sembler positif à première vue, mais il ne rassure pas vraiment parce qu'il s'agit d'un retrait sélectif. On ne connaît pas les critères de ces retraits, ni les véritables intentions derrière ces mouvements. De plus, il n'y a aucun communiqué clair de la part des rebelles pour expliquer cette décision. Cela crée le doute et ne permet pas à la population de faire confiance. Le regroupement des troupes de certaines agglomérations montre qu'ils ne quittent pas réellement la zone, mais qu'ils se repositionnent. Concernant les opérations annoncées par les FARDC contre les FDLR, l'initiative est importante. Mais l'organisation d'un site de transit à Kisangani pose un problème sérieux. Il y a un risque que ces combattants s'y s'installent de façon permanente. Il faut donc un plan clair, définitif et bien encadré pour leur retour au Rwanda.
Maître Patient Bachombe Matabishi.
Ah, merci beaucoup. Merci aussi à Jacques Malumalu de Tchopo qui a posé ces deux questions. Je crois qu'il a parfaitement raison lorsqu'il est dubitatif par rapport à cette mesure qui ne rassure pas, donc ce retrait qui ne rassure pas. C'est ce que nous avons dit d'ailleurs. En ce qui concerne les FDLR, oui, je crois qu'il doit y avoir des mesures qui sont prises pour que ça reste un camp de transit. Et c'est tout ce que nous étions en train de dire. Il faut qu'on mette en place un mécanisme régional des DDR, mais également, quelqu'un venait de dire ici qu'il faut un dialogue au Rwanda pour permettre à ce qu'il y ait une ouverture, n'est-ce pas, politique, pour qu'ils discutent entre eux.
Mais à quoi serviraient tous ces mécanismes lorsque ces préalables ne sont pas encore accomplis, hein? L'honorable Mounoubo l'a relevé ici. Il y a des défis qu'il faut relever, notamment localiser, n'est-ce pas, les FDLR, avoir accès, n'est-ce pas, aux zones qu'ils occupent, mais aussi estimer leur nombre.
Mais vous savez que la question que vous posez, elle est fondamentale. Déjà, le Rwanda a avancé les chiffres de 500 000 FDLR. Vous voyez que quand vous entendez déjà ça, c'est-à-dire qu'il parle de toute l'armée congolaise, hein, que toute l'armée congolaise est constituée des FDLR. Ça, c'est le Rwanda qui dit ça. Donc, je pense que pour le Rwanda, les FDLR, c'est une autre affaire. Mais laissez-moi quand même réagir à quelque chose qui a été dit ici par l'honorable. J'ai une vie peut-être un peu contraire par rapport à Doha. Dès lors que le Rwanda a accepté que c'est lui qui est en RDC, il n'existe plus de M23 ni du Rwanda. Il y a confusion. Il y a confusion des militaires rwandais et des militaires des M23. C'est-à-dire que c'est tout un tout. C'est un tout. Rappelez-vous, il y a quelques jours, certains responsables des M23 ont demandé à ce que l'armée congolaise vienne retirer les 5000 militaires qui ont fait défection, plutôt qui ont...
Les uns ont été rendus, les autres ont été arrêtés, et
ils demandent au gouvernement de venir les retirer. Alors, ils utilisent quels autres militaires? Voyez-vous, c'est le Rwanda en réalité. Et on ne sait pas, même les chiffres... Là,
qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à Doha? Vous voulez dire quoi?
Pour nous, Doha n'a pas son sens actuellement dès lors que le Rwanda accepte, n'est-ce pas, d'assumer tout ce qui se fait. Tout ce que nous attendons du M23, c'est le cantonnement. Évidemment, il y aura des discussions, il peut y avoir maintenant des discussions pour savoir ceux qui seront n'est-ce pas, cantonnés, que ce soit à Sabine ou je sais pas, les sites qui sera
ceux qui seront éligibles
au PDDRCS, ils seront désarmés, ils seront démobilisés. Et cette affaire aussi du dialogue, je veux vraiment que ça soit très clair. Est-ce que aujourd'hui, imposer ou demander un dialogue dans ces contextes où il n'y a pas retrait de l'armée rwandaise dans notre pays, pensez-vous que ça va apporter
c'est
quelque
notre
chose
débat, c'est notre débat, donc, on va y revenir. Hein,
pour
on
nous,
va y
il faut arriver au cantonnement, oui. Il faut le retrait du Rwanda et à ce moment-là, les gens pourraient se réunir finalement.
Merci,
pour parler de toutes
on, a,
ces
on a compris. On a compris Henri Pacifique Mayala, vous allez aussi réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Beni, c'est Pierre Moussafiri.
Bonsoir, la fréquence de la paix. Moi, c'est Pierre Moussafiri depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Jusqu'à présent, le jeu que l'AFC 1-23 est en train de mener est très difficile à comprendre. D'autant plus que les autorités de ce mouvement, notamment les gouverneurs installés à Goma, ont démenti l'information faisant état de retrait, expliquant qu'il s'agit plutôt d'une rotation des troupes et non de retrait. Je pense qu'il s'agit d'une stratégie de cette rébellion visant à distraire les Congolais et que, dans les prochains jours, la situation pourrait se tensifier sur le terrain. S'agissant des traques des combattants FDLR, plusieurs questions se posent. Comment les FRDC vont-elles traquer les FDLR alors que bon nombre d'entre eux se trouvent dans les zones contrôlées par l'AFC 1-23? Sera-t-il facile pour les FRDC de différencier les Wazalendo et les FDLR lors des opérations militaires? Surtout que ces combattants rwandais n'ont pas de position bien définie. Je pense qu'il y a jusqu'à présent des éléments non dits dans cette affaire.
Henri Pacifique Maela?
Ça c'est très intéressant. Et merci beaucoup à notre compatriote Pierre, parce que je pense que ça se recoupe. Pendant longtemps, je pense qu'il y a eu cette fracture entre Kinshasa et les communautés locales, où on adopte un ressortissant d'une contrée qui est supposée parler au nom de tout le monde. Mais cette question fait beaucoup réfléchir, parce que les populations qui côtoient, qui ont été dans une certaine proximité avec les enjeux, ils se posent des questions qui parfois les personnes qui sont en position de prise de décision et qui devraient réfléchir à ces questions-là ne se posent plus, en tout cas depuis un temps. Aujourd'hui, comme je le disais tantôt, Ouvira a fait aussi question de retrait sous menace ou pression des médiateurs. Mais nous avons tous vu que le M23 n'est pas rentré à Kamanyola. Ils sont restés à Sangé. Et j'expliquais tantôt comment est-ce que cela reste dans la stratégie d'occupation. Et demain, s'il y a un nouvel assaut sur Ouvira, pour moi, cela viendra sans surprise. De la même façon, dans le Grand Nord, aujourd'hui, on a documenté des incidents d'affrontement entre les local defense dans la stratégie du M23, et ça, c'est connu. Depuis Kichanga, on occupait, lorsqu'on avançait, on laissait les local defense, et parfois, ça a tourné à des indexations, des gens qui ont été juste tués parce qu'ils appartenaient à une tribu supposée être opposée à ceux qui sont la majorité d'un tel ou tel autre camp. Et tout ça, c'est dangereux, parce que d'une part, considérer, et encore une fois, je pense aussi, si vous me permettez de rentrer...
Allez-y rapidement, parce qu'on n'a pas tous les temps.
L'intervention de Maître Bachombe, je trouve ça très dangereux que le pays s'engage, qu'on mobilise des ressources à envoyer des représentants du chef de l'État à Doha pour dire qu'aujourd'hui, voilà, le Rwanda a reconnu, donc Doha ne signifie rien. Ça, c'est très dangereux. Et je pense que pour le caractère pédagogique de cette émission, il faudrait porter l'emphase sur certaines de nos analyses lorsque nous débattons ici. Doha porte tout son sens. C'est le pays qui s'est engagé, c'est notre président qui a délégué son représentant pour signer en son nom. L'histoire d'échange de prisonniers, ça a été un engagement qu'a pris le pays, qui a engagé le CICR, qui n'est pas une organisation moindre. Et tout cela, je pense que dans une certaine mesure, où il y a eu un premier lot, pas des réfugiés, mais des soldats issus de la zone du M23 qui sont rentrés à Kinshasa et que la première ministre a reçu, dans une certaine mesure, je pense qu'il faudrait peser notre analyse.
Voilà.
Pour moi, je pense que oui, ça a été une grosse erreur stratégique, mais il faudrait assumer jusqu'au bout de la logique.
Merci.
On a laissé le président Lourenço pour se représenter face à Kagame en avril, à la surprise de toute la nation. Ça a été un choix qu'il faudra assumer jusqu'au bout.
Et merci, on donne la parole
à l'honorable de jouer de sauvetage, et je ne suis pas trop sûr qu'il soit aussi prêt à lâcher.
Merci, honorable Mounoubo,
Juvenal Mounoubo. Ça reste et ça pèse dans les négociations.
Voilà, honorable Juvenal Mounoubo Moubi, vous allez réagir à la réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga.
Sakodi Pauni Désiré depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À mon avis, le retrait des rebelles de l'AFCM-23 des différents territoires est purement tactique pour une possible réorganisation. Je pense que le gouvernement ne doit pas se laisser berner par ces mouvements et doit prendre des mesures urgentes pour protéger la population. Quant à l'annonce des FARDC faite le 29 mars 2026 sur les débuts des opérations militaires pour contraindre les éléments des FDLR au cantonnement, je trouve ça très absurde. Il y a quelques temps passés, le gouvernement congolais, par son porte-parole, disait qu'il n'y avait plus de FDLR au Congo, et c'était en réponse à l'exigence du Rwanda sur la présence des FDLR en RDC. Alors, comment l'armée peut-elle faire une telle annonce? Y a-t-il quelque chose que le gouvernement congolais cache? Merci.
Honorable Mounoubo.
Je crois que l'auditeur a vraiment raison. Faire la paix à l'est du Congo, ça ne doit pas être une affaire des Américains ou des étrangers. Hein. Il faut vraiment que ça, qu'on intériorise ça, que ce soit à Kinshasa, à Kigali. Hein. Ça doit être l'affaire de nous, Africains, et nous qui nous faisons la guerre ici. Ceux qui se font la guerre, c'est des Congolais et des Rwandais. Vous voyez un peu. Et donc, les retraits qu'on observe là, est-ce que c'est parce que le Rwanda veut faire la paix? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Ou puisqu'il y a une pression de Donald Trump, hein? Les FDLR, l'annonce de la traque des FDLR, est-ce qu'on intériorise ça vraiment qu'on doit traquer les FDLR? Ou puisqu'il a été rappelé à Washington que nous devons faire quelque chose, hein? Sans nous réaliser que les défis sont énormes. Donc, il n'y a pas une appropriation de ces processus de paix. Et ça, c'est un problème.
Et qu'est-ce que vous proposez, hein? Parce que nous tenons vers la fin de l'émission, qu'est-ce que vous proposez pour que nous puissions solutionner de façon idoine cette question de l'Est?
Moi, je crois qu'il faut finaliser Doha. Je reviens là-dessus. Beaucoup de gens, peut-être, ne préfèrent pas les dire comme ça, mais ça reste la vérité. Il faut finaliser Doha, et le grand manquement pour Doha, c'est qu'on n'avait pas associé la société civile à ces négociations. Si au moins on avait associé la société civile à ces négociations, comme ça, on conclut avec au moins un témoin qui est la société civile. Et ça serait quelque chose. Donc moi, je crois que la pression qui est en train d'être exercée, ça devrait aider à vite conclure cette affaire de droit, parce qu'on ne doit pas rester dans les négociations éternellement. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, il faudrait voir, parce qu'il y a pas mal de problèmes en termes de cohésion interne. Vous voyez un peu le fait, par exemple, qu'il existe...
D'où la nécessité de mettre en place...
Un dialogue interne. Voilà. Hein, il faut aussi préparer peut-être les futures échéances électorales, toutes ces questions-là.
Merci.
Asseoir la cohésion. Donc, à un moment donné, et c'est ça dans l'histoire de ces pays, à un moment donné, les acteurs se retrouvent. C'est pas pour se partager les pouvoirs, pas forcément, hein, mais se retrouver pour asseoir véritablement cette cohésion.
Merci.
Je suis tout à fait d'accord avec Bachom Beke. Un dialogue interne, il faut l'envisager après qu'on ait conclu cette histoire de l'Est. Parce que ça serait quand même inimaginable qu'on se retrouve dans un dialogue interne inclusif pendant que Goma est occupé et Bukavu est occupé.
Merci.
Alors comment faire en sorte que Goma et Bukavu ne soient plus occupés? Est-ce que la seule pression américaine suffit? Si on pense que c'est ça la solution, on est un peu naïf. Pour conclure, il faut vite revenir à la table des négociations et parvenir à un accord qui peut prévoir en ce moment-là des chronogrammes, des étapes de cantonnement,
voilà,
des DDR, etc.
Merci, Patient Bachombe Batabishi. Votre conclusion?
Pour ma part, je sais qu'au niveau africain, les leaders africains ont échoué d'imposer la paix en RDC, que ce soit la CIRGL, que ce soit la SADC, que ce soit les autres instances au niveau africain. Mais nous le savons bien que c'est grâce à l'implication des Américains de Washington que nous avons cette paix.
que nous avons cette pression et qu'aujourd'hui on commence à parler du retrait. Donc il faut pousser pour que ça puisse arriver jusqu'au bout. Moi je me pose la question, pourquoi on doit encore aller discuter, dialoguer, mais négocier avec l'M23 alors que déjà à la base ils sont avec la pression sur le Rwanda, ils sont en train de partir. Et il n'y a pas Rwanda, il n'y a pas le Rwanda et il n'y a pas l'M23. C'est un tout.
Merci.
Donc, faire partir le Rwanda, c'est faire partir l'M23 parce qu'ils seront cantonnés et automatiquement les autres aussi, les militaires RADF, vont se retirer.
Henri Pacifique Mayala, comment vous entrevoyez la suite de la situation ou du processus de paix dans la partie est du pays? Ça sera votre conclusion. Rapidement,
je pense que le M23 était déjà cantonné en 2023 et ils n'avaient pas réussi à occuper Goma au-delà de 15 jours. Aujourd'hui, ils sont allés jusqu'à Uvira. Ça devrait nous interpeller. Donner notre avenir aux Américains, quelle serait la différence avec ce qu'on a fait avec les mercenaires? La solution devrait être interne et pour moi, je pense que ces gens des raccourcis, on devrait s'en distancier.
Merci.
La solution devrait être interne. Il faut que les Congolais se parlent.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Honorable Juvenal Munombo Mubi, Maître Patien Bashombe Matabishi et Henri Pacifique Mayala, merci aussi à tous les auditeurs qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Benjamin Mudumbi et David Ngisa qui l'ont réalisé, André Mongou qui était à la technique, et Sylvain Baogwere qui a assuré le live de cette émission, à la présentation Guy Maté. Merci encore et bon suite du programme sur Radio Capitale.